qu'allez-vous faire lorsque la mode des médias sociaux sera terminée? Pas parce que ça va complètement disparaître, exploser et disparaître dans la stratosphère, mais parce que c'est sûr que l'engouement va diminuer et est en train de diminuer en ce moment. Regardez simplement autour de vous, regardez la façon dont les gens interagissent, la façon dont l'usage de Twitter a changé durant cette année, et c'est sûr que l'engouement diminue beaucoup. L'engouement diminue pas nécessairement du côté des médias traditionnels, diminue pas non plus du côté des agences de communication ni des gens qui sont supposément très connus, mais cet engouement diminue de la part de monsieur et madame tout le monde, les gens qui s'étaient mis à utiliser les médias sociaux par curiosité, par passion, commencent de moins en moins à trouver ce qu'ils cherchent à trouver leur compte finalement sur les médias sociaux. Et en ce moment, moi, je préfère dire que je suis spécialisé en communication en général plutôt qu'en médias sociaux parce que se spécialiser uniquement dans quelque chose d'éphémère, ben, c'est aussi en même temps un peu rendre sa carrière éphémère. Mon nom est Sylvain Grandmaison et vous écoutez Le Québec en balado-diffusion. You went into the kitchen cupboard, got yourself another hour, and you gave half of it to me. We sat there looking at the faces of the strangers in the pages till we knew mathematically they were in our minds until forever. But we didn't mind, we didn't know better. So we made our own computer out of macaroni pieces, and I did our thinking while we lived our lives. We counted up our feelings and divided them up even, and I called our calculation perfect love. Didn't even know that love was bigger. Didn't even know that love was so, so, hey, hey. This fire, it's burning, burning us up. Hey, this fire, it's burning, burning us. Oh, ooh, ooh, ooh. So we made the hard decision, and we each made an incision past our muscles and our bones. Our hearts were little stones. They weren't beating, and we weren't even bleeding. As we lay them on a granite countertop, we beat them up against each other. We beat them up against each other. We struck them hard against each other. We struck them so hard, so hard until they sparked. Que c'était bon cette chanson-là. Pour ceux qui veulent savoir, c'est du Regina Spektor. Et Spektor s'écrit avec un K. J'ai découvert ça un peu cette année, mais j'avais déjà entendu des chansons d'elle, mais je sais pas, ça m'a plus accroché cette année. Cet album-là, je pense, c'est un album de 2009. Sa voix ressemble un peu à différentes choses qu'on connaît, comme du Tori Amos, comme du Feast, comme du Bjork, etc., etc. Et donc, ce que vous avez écouté, ça s'appelle The Calculation. Donc, checkez ça sur iTunes et compagnie. J'enregistre ce podcast-là en direct de mes vacances de Noël dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est un peu informel aussi comme setup. Je ne suis pas comme à la maison. Vous risquez d'entendre des bruits ambiants, peut-être même le chien de la maison ici, parce qu'on est, on est dans la famille dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, voilà pour ça. Et aussi, j'enregistre avec mon nouveau joujou. C'est un Zoom R24. Donc, avant de m'envoyer un courriel pour me demander qu'est-ce que c'est un R24, allez faire un petit tour sur le site de la compagnie. Cherchez ça dans Google. Vous allez trouver son enregistreur multipiste. Donc, on peut enregistrer 8 pistes en même temps pour un total maximal de 24. Donc, c'est assez très bon. Ça enregistre sur de la mémoire flash, un peu comme les autres enregistreurs Zoom. Ça peut servir d'interface audio, de sampler. Ça fait tout. On peut aller sur la Lune avec ça, mesdames et messieurs. Oui, on peut aller sur la Lune. Avant de rentrer dans le vif des sujets, passons aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est le carburant de la semaine. Oh oui, il y en a un cette fois-ci. Écoutez, je ne vous ai pas fait d'émission presque cette année. J'ai fait environ, 3 émissions. Ça va être la 4e cette année. C'est minuscule, donc je vous dois bien un carburant de la semaine. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une bière de Noël, hein, pour être dans la thématique du temps des fêtes. Bière de Noël des Frères Roublon. Les Frères Roublon, c'est une brasserie de Trois-Rivières que je connais vraiment pas bien. Mais j'ai trouvé ça sympathique. Il y avait une triple et une double. J'ai déjà bu une bouteille de double durant le temps des fêtes que j'ai partagé avec la famille. Et là, je m'ouvre une bouteille de triple. Non, c'est le contraire en fait. J'ai bu une triple, j'ouvre la double. La double fait 9% d'alcool, c'est 500 millilitres. C'est produit à Trois-Rivières, je ne sais pas si je l'ai dit. Et c'est en édition limitée de 2000 bouteilles. J'ouvre ça, mesdames et messieurs. Et regardons qu'est-ce que ça a l'air à l'œil. Oh, que c'est beau. C'est un peu rouge, un peu roux, un peu opaque. Évidemment, c'est assez épicé. C'est une bière de Noël. Et je vais y goûter devant vos oreilles. C'est pas vilain. Honnêtement, je pensais qu'il allait avoir un peu plus de sucre résiduel. C'est assez rond en bouche. Un peu piquant, un peu effervescent. Ça sent un peu les épices, mais pas tant que ça. En même temps, je m'attendais à quelque chose de plus sucré et plus épicé comme bière de Noël, mais quand même, c'est pas si mal. Ça fera un bon travail de carburant de la semaine pour cette émission-ci. C'est sûr que j'ai fait beaucoup moins de podcasts cette année que par les années passées. J'ai ralenti le rythme pour différentes raisons. Je sais pas pour m'excuser ou quoi que ce soit, mais plutôt vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé cette année pour moi, parce que il s'est passé vraiment 10 millions de choses. C'est absolument incroyable. J'ai fait quelques conférences, un peu moins que l'an passé, mais quand même, de façon quand même soutenue. Pourquoi j'ai aussi moins fait d'émissions? Mais c'est parce que je suis prof de cégep. J'enseigne au cégep quelques cours par session et ça fait bien mon bonheur, si je peux dire, parce que j'adore partager. J'aime aussi voir ce que les étudiants font. J'aime être dans ce bouillonnement d'idées-là. Moi, je suis graphiste de formation, donc j'enseigne dans le département de graphisme. J'enseigne la publicité. J'ai enseigné la typographie aussi et le graphisme de façon générale. Et vous pouvez vous imaginer qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses reliées aux médias sociaux. Mes étudiants pourraient en témoigner. Donc, on a passé la moitié de la session en publicité entièrement sur des projets reliés aux médias sociaux. Ça, c'était assez intéressant, la session passée. Et sinon, dans les autres cours, mais il y a toujours parfois des petits quelque chose qui peuvent tourner autour de ça, autour du web aussi. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu aussi l'achat de ma maison. J'ai déménagé de la ville de Montréal. Malheureusement ou heureusement, c'est sûr que la ville me manque toujours un peu. C'est sûr que j'avais mes petites habitudes, aller faire des commissions, comme on dit, aller acheter mes petites choses sur la rue Masson. J'ai habité près de la rue Masson pendant 10 ans, ce qui est absolument phénoménal, on peut le dire. Je l'ai vu se transformer, cette rue-là, les nouveaux commerces arrivés, les bons restaurants aussi arrivés, vraiment, puis la faune aussi, les gens qui ont suivi, parce qu'au début, quand je suis arrivé là, c'était pas le même type de personnes qui habitent là en ce moment. Il y en avait un peu, oui, mais ça a beaucoup changé. Donc, j'ai quitté pour la rive sud de Montréal, sur le bord du Richelieu. En fait, la rivière Richelieu passe à 100 mètres de la maison. Je sais pas si je l'ai mentionné dans un podcast passé, mais bref, c'est ça, on a acheté une maison qui a environ exactement 140 ans. Ça apporte son lot de rénovation aussi, mais aussi son lot de plaisir. On a un terrain de 20 000 pieds carrés. Pour les Européens qui m'écoutent, c'est 2000 mètres carrés. C'est assez gros. 16 arbres centenaires environ. Beaucoup de terrain, c'est magnifique. Tout à côté de l'école pour mon fiston. Bref, c'est pas loin d'un endroit idéal, et on est très, très, très content d'habiter là. Je vous pars une autre chanson, ça s'appelle 30 Bones, et je vous reparle après.
Thank you.
que c'était smooth, que c'était relax, cette toune-là. Mais c'est bon quand même. C'est une chanson de qui? C'est une chanson de Fistful of Mercy. Fistful of Mercy, c'est un... Je pourrais pas dire un super groupe fait de super vedettes, parce que bon, oui, c'est fait de vedettes, mais pas quand même de super, super vedettes. Mais c'est trois gars, Ben Harper, Danny Harrison, oui, le fils de George, et Joseph Arthur. Donc, ils se sont rencontrés comme ça à un moment donné, je pense, si ma mémoire est bonne, en faisant du rollerblade. Et puis, ben c'est ça, ils ont, se sont noués un peu d'amitié, se connaissaient un peu mutuellement. Et je ne sais pas c'est qui a dit que la somme des parties est meilleure. L'ensemble est meilleur que la somme des parties, c'est-à-dire que si on ajoute les trois ensemble, c'est beaucoup meilleur que l'addition de leurs trois talents séparés. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, moi, je me comprends. Tout ça pour dire que oui, c'est quand même assez bon. Ça sonne un peu comme ce que font Harper et Arthur, mais il y a la voix et la guitare de Danny Harrison qui ressemble un peu, qui rappelle la voix de George Harrison, mais en même temps, c'est une version plus moderne. Et les harmonies vocales ressemblent un peu à Bon Iver, dans le sens que c'est un peu des harmonies dissonantes. Bref, c'est quand même assez bon, j'aime bien ça. Donc, ça s'appelle Fistful of Mercy. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi depuis, depuis le début de l'été? Parce que la dernière fois que j'ai fait un podcast, je vous avais pas encore dit que j'allais à Radio-Canada, puis là, il est comme trop tard parce que c'était l'été passé. Ben oui, j'ai fait l'émission AM à Radio-Canada, j'étais chroniqueur web, donc AM, c'est l'émission qui remplaçait Christiane Charrette durant l'été, donc c'est sûr que c'est à une heure d'écoute assez intéressante. L'animatrice était Anne-Marie Withenshaw, donc doublement intéressant. Parce que c'est une fille extrêmement sympathique, extrêmement dynamique, puis faire partie d'une émission estivale comme ça, avec une fille comme ça, c'était vraiment, vraiment amusant. Puis, c'est ça, aller tous les jeudis à la tour de Radio-Canada, descendre au studio en bas pour aller faire mon émission, ça, c'était le fun. C'était vraiment intéressant. Il y a aussi que j'avais pas mal carte blanche, c'est que je proposais des sujets et il y a peut-être juste une fois que la réalisatrice m'a un peu passé une commande parce qu'il y avait quelque chose dans l'actualité qui retenait leur attention et qui jugeait digne d'attention. Donc, ça a été la seule fois où est-ce que, en même temps, j'ai fait quelque chose qui était collé au niveau technologique à l'actualité immédiate. Parce que c'est sûr, c'est des sujets que j'ai les sujets dont j'ai parlé, c'est des sujets qui étaient quand même chauds dans le temps, mais c'est pas nécessairement des nouvelles du jour, tandis qu'il y a une fois, c'était vraiment collé plus à l'actualité. Donc, comme expérience, c'était intéressant. J'avais pas le track. Je veux dire, me retrouver devant un micro, dans un studio, parler de sujets que je connais et pas avoir à être l'animateur principal. Je veux dire, moi, j'étais dans mon élément, c'est sûr, là. Parce que c'est sûr que quand je faisais Mac Québec avec les deux Laurent, il y avait pas une dose de stress, mais une dose de responsabilité supplémentaire. C'est moi qui calais les shots. C'est moi qui introduisais les sujets. Même si eux préparaient leurs sujets puis faisaient leur truc au complet, parlaient de leur segment, j'avais quand même, il fallait que je suive quand même tout ça. Donc, aller à Radio-Canada et pas être responsable de rien, il y a des techniciens pour faire ça, etc., pour s'occuper de l'enregistrement, tout ça, j'ai juste à être bon. C'était assez intéressant. Donc, j'ai fait ça pour une partie de l'été. Puis ensuite de ça, cet automne, j'ai fait de la télé. J'ai été chroniqueur techno à une émission qui s'appelle Café Internet. C'était à Télé Cogeco, donc ceux qui sont branchés via Cogeco, comment je pourrais dire, là où Vidéotron offre pas le service de câble, c'est Cogeco qui l'offre au Québec. Donc, ça dessert quand même une assez grande partie de la population québécoise et l'émission est diffusée quand même à plein d'endroits. Donc, j'ai fait ces chroniques-là et je dois dire que c'est quand même... c'est quand même l'expérience d'animation la plus difficile que j'ai eu à faire. Parce que en audio, c'est facile. On n'a pas à se préoccuper de qu'est-ce qu'on a l'air. On peut avoir ses notes à un pouce du visage sans que ça apparaisse. Donc, c'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile de retomber sur ses pieds si on se trompe ou quoi que ce soit. À la télé, c'est un peu plus difficile parce que les notes sont plus loin. Il faut apprendre un petit peu plus par cœur. Et aussi, je faisais ma chronique, mais pas à l'intérieur d'une émission où est-ce que j'interagissais avec l'animateur. Non, l'animateur disait « on va voir Sylvain pour la chronique techno ». Et là, la chronique techno démarrait avec moi seul devant le Kodak. En plus, le contexte d'enregistrement n'était pas facile. Pour donner vraiment une saveur techno, on enregistrait ça dans un magasin d'électronique. Je ne sais pas si vous savez, mais dans un magasin d'électronique, il y a du monde. Il y a des gens curieux qui veulent voir qu'est-ce que vous faites. Donc, des fois, être avec une dizaine de personnes autour, le technicien, la réalisatrice, tout ça, à faire son segment, c'était pas le contexte idéal. Je dois dire, je suis meilleur dans un environnement un peu plus contrôlé, dans un studio, par exemple, que tout seul dans un endroit comme ça avec plein de gens autour, la sonnette d'alarme de la porte qui part, la musique des fois qui démarre trop fort, des gens qui se promènent autour pendant qu'on est à la caméra, des gens qui passent devant la caméra puis qui se mettent à regarder des pièces de technologie puis sans se rendre compte qu'on est là. Bref, ça a été assez difficile, mais en même temps formateur. Je pense que j'ai bien fait. Les gens étaient extrêmement satisfaits, mais je dois dire que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour pouvoir faire ça. Et aussi le fait que je devais me déplacer pour aller enregistrer ça. Donc, au bout d'environ 8-10 épisodes, j'ai laissé tomber tout simplement. C'était un peu irréaliste de pouvoir continuer, mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. Ça a été assez amusant. Je vous fais jouer une autre chanson. Celle-là, je vous la fais jouer parce que j'ai revu Paul McCartney en concert cet été. Pour ceux qui le savent probablement, je suis assez fan des Beatles, particulièrement de Paul McCartney. Plusieurs trouvent que leur Beatle préféré, c'est John Lennon, par exemple. C'est un classique. Moi, c'est Paul McCartney parce que il y a une durée dans le temps, parce que c'est un gars multidisciplinaire. Je vous en ai déjà parlé, de toute façon, si vous écoutez l'émission. Donc, écoutez la chanson, ça s'appelle Ramon. Pourquoi je vous la fais jouer? C'est parce que au spectacle cet été, c'est probablement la dernière chanson que je pensais entendre, mais une de celles que j'avais envie d'entendre live. Donc, il m'a fait le cadeau, ce cher Paul, de me la jouer. Mais c'est sûr, pas simplement pour moi, mais pour tout le monde. Mais ça m'a fait vraiment plaisir, parce que j'aime beaucoup cette chanson-là. J'adore cet album-là. Ramon.
Ramon,
C'est sûr que cette chanson-là est pas aussi spectaculaire que d'écouter Hey Jude ou Yesterday live par Paul McCartney, mais j'aime l'ambiance de cet album-là, c'est assez intéressant. Si l'audio ne vous semble pas parfaitement équilibré tout au long de ce podcast-là, ben c'est tout à fait normal. C'est parce que j'enregistre avec cette nouvelle bébelle-là. J'enregistre aussi en temps réel, donc je reprends pas, je fais pas de coupure. Je fais aucun montage. Ça va être d'un bout à l'autre enregistré avec ce nouveau bidule-là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que des faders aussi. Je peux ajuster le son à tout moment. C'est extrêmement simple. La seule chose que je reproche à cet appareil-là, c'est le balance, c'est-à-dire si on veut mettre du son plus à gauche ou plus à droite, il faut aller dans les menus. Il n'y a pas un bouton juste qu'on peut tourner comme sur un mixeur traditionnel. C'est un peu plate pour ça, mais quand même, la tonne d'avantages qu'a cet appareil-là surpasse de beaucoup les problèmes qu'on peut avoir. Donc, voilà. De quoi je vais vous parler? Bien, c'est un peu une rétrospective de l'année 2010. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de hot cette année dans ma vie et ou dans les médias sociaux? Il y a eu un troisième podcast 2010. Donc, plus gros encore que les autres. Pas nécessairement plus de conférenciers, c'est ça qui a été surprenant. Un peu moins d'offres de conférences que les autres années, sauf que beaucoup plus de gens qui ont participé. C'était un énorme succès, beaucoup de commanditaires. Donc, on a aussi beaucoup réinvesti. C'est sûr que les lieux aussi coûtaient une fortune. C'est plus que du simple au double avec les années passées. C'est du simple plus qu'au quintuple. Là. C'est presque 8 fois le prix que l'ancien endroit. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé cette année de charger un modeste 30$ pour une possibilité de quoi 40-quelques conférences. Donc, c'est rien quand on y pense. Mais en même temps, c'est sûr qu'on préférerait pas chargé, que ce soit entièrement gratuit et supporté par l'argent des commanditaires. Mais que voulez-vous? C'est la vie. Donc, c'était une très belle édition dans des très belles salles au cœur des sciences de l'UQAM. Vraiment, c'était très, très, très pro. On a eu aussi un commanditaire qui nous a payé un cocktail avec du mousseux. Ça aussi, c'était absolument phénoménal. Il a fait beau. Tout était là. Et aussi les plus grands conférenciers, ceux qu'on aime beaucoup. C'était un événement un peu moins, il y a eu moins de gens de l'extérieur qui sont venus. C'était beaucoup des gens de Montréal et du Québec en général, mais pas beaucoup de l'Ontario, pas beaucoup de New York ou de Boston comme par les années passées. C'était plus tranquille cette année pour l'extérieur, mais ça a été un vif succès ici même à Montréal. Donc voilà. Et aussi, j'ai arrêté d'animer le podcast de Mac Québec parce que je suis trop occupé, parce que les deux autres Laurent l'étaient aussi. Puis, je pense que, on était simplement rendus là. Je pense que la formule était bonne, la dynamique était bonne entre nous trois aussi. Tu sais, c'est deux copains, les deux Laurent. On est trois fans de Mac aussi, trois power users. Mais c'est ça, on était simplement rendus là. On est tous très occupés. Laurent Maisonneuve enseigne lui aussi. Laurent Lassalle, maintenant blog sur le blog Triplex de Radio-Canada. Donc, très occupé et c'était simplement le temps de passer à autre chose. Sauf que le podcast continue. Il y a Bernard Ouellet et Alexis Cornelier qui ont repris le podcast. J'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais allez y jeter une oreille, c'est sûrement intéressant. Alexis est un féru de Mac, vraiment, il s'y connaît énormément. Autre que ça, durant l'année, j'ai fait beaucoup de projets de podcast et de projets de web. Donc, j'ai fait différents projets. Juste pour vous en mentionner quelques-uns, c'est assez... des fois, je me pince quand je fais ce différents projets parce que les gens avec qui je collabore, puis qu'est-ce que je fais... On a fait un projet avec Bonnie Wailer. Bonnie Wailer, c'est le dernier survivant du groupe Bob Marley and the Wailers. The Wailers, c'est d'où ça prend son nom, c'est de Bonnie Wailer qui était, je pense, le cousin de Bob Marley. En tout cas, Il était lié par le sang d'une certaine façon. Et bon, ben, les deux autres membres du groupe sont décédés. C'est le dernier. Il devait venir à Montréal au Festival Reggae, légende vivante du reggae. Donc, il y avait une conférence de presse organisée avec lui. Sauf que lui était en direct de sa maison pendant que, bon, les journalistes et tout le monde étaient ici à Montréal. Donc, il fallait assumer les deux bouts. Être sûr que ça fonctionne. On a fait ça avec Skype, on a fait ça avec des interfaces audio, des très bons micros, avec des bonnes caméras aussi. Bon, c'est sûr que de leur côté, là-bas, pour que ça soit plus léger, plus facile à voyager, c'était la caméra du MacBook Pro. Mais de notre côté, bon, on avait une caméra DV pour filmer les journalistes, tout ça. Donc, ça a été bien, ça a été bien organisé. Donc, ça, je suis assez content de ce projet-là, malgré que Bonnie Wheeler, fidèle à lui-même, ne s'est pas présenté. Il n'est même pas allé à l'aéroport pour embarquer dans l'avion pour venir à Montréal. Vraiment, là. Et ce n'est pas la première fois qu'il a fait ça aussi, il y a une couple d'années, au Festival de jazz. Donc, on s'y attendait. J'ai fait des projets aussi avec le Centre national des arts à Ottawa. J'ai entre autres enregistré Édouard Locke, de La 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 Human Step, une entrevue, donc j'étais le réalisateur de l'entrevue. Ça aussi, c'était amusant, pénétrer dans un monde comme ça. Puis moi, Édouard Locke, c'est quelqu'un que j'admire énormément pour son travail artistique. Donc ça aussi, c'était vraiment intéressant. Ensuite de ça, bon, mais je suis toujours à l'occasion des projets de podcast avec Deloitte, donc Sanson Belair, Deloitte et Touche, avec aussi Thornley Fallis, qui est un bureau de relations publiques, qui sont situés, je pense, beaucoup à Toronto, et je pense qu'il y a un petit bureau à Ottawa aussi. Bref, c'est une petite bonne firme de relations publiques. J'ai fait aussi un projet pour Allstate, les assurances Allstate. Un projet majeur de podcasting que j'ai fait, c'est avec la Magnétothèque. La Magnétothèque, c'est quoi? C'est, comment je pourrais dire, un organisme qui fait la lecture de nouvelles pour les malvoyants et qui aussi font des émissions destinées vraiment aux malvoyants ou aux non-voyants, tout simplement. Donc, vous pouvez vous imaginer avec environ quoi 6h30, je pense, de programmation originale par jour, souvent découpée en demi-heure, avec des émissions différentes chaque jour. Ça fait une masse d'émissions absolument phénoménale. Donc, j'ai eu à assurer toute la technique en arrière de ça, c'est-à-dire analyser les besoins puis fabriquer, concevoir une solution de podcasting sur mesure. Évidemment, à chaque fois qu'on fait un projet de podcasting, c'est toujours du sur mesure. Donc, la portion podcasting, on a fait un peu la portion visuelle, un peu le branding des émissions. Et ensuite, c'est configurer tout le système de publication et d'abonnement. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de connaissances et ça demande un peu d'être magicien, faire de la magie avec les filles d'RSS pour pouvoir faire tout ça. Mais quand on s'y connaît bien, quand on connaît toutes les tout ce qu'il faut pour réussir à produire un podcast, c'est facile. Ça devient un peu de la cuisine, de mettre ensemble les bons éléments pour que ça fonctionne. Il y a sûrement d'autres projets que j'oublie, mais je vais sûrement vous en reparler. Il y a aussi d'autres projets qui sont en rodage en ce moment, dont je ne peux pas parler. Donc, c'est ça. Mais s'il y en a d'entre vous qui sont malvoyants, allez faire un tour sur le site de la Magnétothèque. Je mettrai un lien dans les notes de l'émission. Et s'il y en a qui connaissent des gens qui sont non-voyants, écoutez, communiquez-leur l'information. Il y a plein de choses qui se passent du côté de la Magnétothèque. La radio devient très, très, très active. C'est distribué partout au Québec par Radio Câble, sur le câble, en fait, au niveau de la radio, mais aussi toute la programmation est disponible en podcasting. En ce moment, il y a un transfert parce qu'il y a la nouvelle programmation qui va commencer en janvier, mais allez faire un tour sur le site, propager l'information autour de vous. C'est tellement un projet important, intéressant aussi pour donner accès à l'information à ces gens-là. C'est vraiment important. Donc, j'arrête de parler. Je vous fais jouer une autre chanson de Regina Spektor et on se reparle tout de suite après.
Two birds on a wire. One tries to fly away and the other watches up close from that wire. He says he wants to as well, but he is a liar. I'll believe it all. There's nothing I won't understand. I'll believe it all. I won't let go of your hand. Do of a feather say that they're always gonna stay together, but one's never going to let go of that wire. He says that he will, but he's just a liar. To fly away and the other.
Ah, ça s'appelait Two Birds, vous l'aurez probablement compris par les paroles de la chanson. Cette année, j'ai trouvé personnellement que c'était l'année de Twitter. Ben, c'était aussi l'année où est-ce que les médias sociaux sont devenus un peu plus grand public aussi. Mais beaucoup l'année de Twitter parce que, c'est drôle, en début janvier l'année passée, il y a plein de gens qui disaient, et aussi beaucoup de gens des médias traditionnels qui disaient, ils ne voyaient pas l'utilité de Twitter, c'était inutile, c'était de la perte de temps, blablabla. Bon, le langage habituel, lorsque les médias traditionnels sont bousculés par des technologies, et donc voilà, on en entendait, bon, dans tous les médias, et ces mêmes gens-là ont changé d'avis plus tard dans le mois de janvier. Pourquoi? Bien, à cause de Haïti. Ils se sont rendus compte que, justement, ils ne pouvaient pas rejoindre les gens. C'était extrêmement difficile de rejoindre les gens parce que les lignes téléphoniques étaient complètement à plat. Et les gens qui étaient présents sur place continuaient à envoyer de l'information et à communiquer via Twitter. Donc, c'est là que les médias traditionnels, surtout ici au Québec, ont vu l'utilité de la chose. On avait un retard flagrant avant l'événement à Haïti. Et étant donné probablement qu'il y a une grande communauté haïtienne à Montréal, on a une proximité avec ce peuple-là, veut pas. Et puis, ben, ça fait en sorte qu'on voulait garder le contact avec eux. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de médias traditionnels qui sont embarqués à pieds joints dans les médias sociaux ici au Québec. Donc, on est rendu vraiment, je pense, au même niveau que partout ailleurs dans le monde, au niveau de l'adoption d'outils comme Twitter, par exemple. Mais ça a pris du temps. Il y en a plusieurs qui étaient assez réfractaires, mais ils ont vu l'utilité de cet outil-là. C'est sûr que quand ça arrive, il y a toujours des gens qui ne s'abonnent qu'aux gens dans leur propre milieu, comme par exemple un classique. Les journalistes s'abonnent, par exemple, au fil du New York Times, au fil d'agences de presse, blablabla, mais ils ne s'abonnent pas à du vrai monde. Or, bien souvent, les nouvelles, les scoops arrivent pas par les agences de presse. Donc, c'est un peu drôle, c'est un peu biaisé aussi comme vision des médias sociaux, parce que lorsque les gens de la presse vous parlent des médias sociaux, ben ils voient que l'aspect presse, lorsque les gens d'un autre milieu, les vedettes, parlent des médias sociaux, ben, ils parlent beaucoup des ragots, tout ça, mais ils ne voient pas le reste, l'ensemble de la chose. Donc, c'est ça, moi, je déplore un peu ça, parce que tout le monde assume que le reste du monde fait le même usage des médias sociaux que eux, alors que chacun a un usage personnel et pas voir cette diversité-là ou s'enfermer à suivre simplement des gens dans son propre milieu, ben c'est se couper du reste du monde totalement. Et c'est aussi se couper de la puissance de cet outil-là, parce que c'est en interagissant avec du vrai monde, en cherchant à l'extérieur de son propre milieu, de sa propre zone de confort, qui va faire qu'on va avoir une vision de l'outil plus complète et on va avoir une meilleure utilisation de cet outil-là. Parce que, justement, tout le monde dans un même milieu utilise l'outil de la même façon. Si on va apprendre des choses sur l'utilisation de l'outil par rapport à d'autres milieux, mais peut-être qu'on peut appliquer ça, puis mieux s'en servir, tout simplement. Je sais pas, je lance des idées comme ça. Donc, c'est ça, Twitter est devenu vraiment mainstream. On en parle dans tous les médias, même à la télé, tout le monde dit « Ah, notre indicatif Twitter, blablabla, blablabla, blablabla. Ce qu'on se rend compte, par contre, c'est que les gens qui sont sur Twitter tweetent de plus en plus. Ceux qui restent, il y a de plus en plus de gens qui se désabonnent aussi. Ça, c'est un relativement nouveau phénomène parce qu'il y avait cet engouement, mais je pense que le gros de l'engouement a atteint un peu un certain plafond. Pas qu'il n'y a pas plus de gens qui vont s'abonner, mais c'est le buzz autour de l'outil est en train d'un peu de s'étioler. Donc, c'est ça, il y a des gens qui se désabonnent. Il y a de moins en moins de tweets originaux. Mais il y a de plus en plus de tweets. Et les tweets originaux, c'est des gens qui écrivent quelque chose que sans retweeter, sans répondre à quelqu'un. Juste une phrase comme ça ou qui partagent une information. Moi, je fais le test des fois. Je vais dans mes préférences Twitter, puis j'enlève les gens qui se parlent entre eux. De dire, s'il y a des gens qui se parlent entre eux, puis je ne connais pas la personne, enlève ces tweets-là. Et je dois vous dire qu'il y a de moins en moins de tweets originaux. Avant, j'avais de la difficulté à suivre tellement tout le monde écrivait, puis c'était riche. Là, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens qui se parlent entre eux autres, des conversations interminables par Twitter. Ça peut être intéressant, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas je dis pas que c'est mauvais. Mais je dis que pour quelqu'un qui cherche à obtenir de l'information brute, c'est moins évident, c'est moins intéressant. L'outil est moins intéressant de ce côté-là. Mais du côté de la conversation, c'est le fun de voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. C'est très, très, très dynamique. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver parce que moi, je pense que là, Twitter va atteindre son seuil de maturité comme n'importe quoi. Mais comme c'est comment je pourrais dire, le premier média social pour bien des gens, autres que le classique Facebook, les gens vont voir, bon, arriver ce seuil de maturité-là, Puis un peu, ça va devenir banal. Un peu comme le podcasting est devenu banal à un moment. Donc, ça va faire partie de notre quotidien, tout simplement. Et tout le monde va dire, ouais, big deal, Twitter, oui, t'es là-dessus, OK, oui, t'as tant de followers. Et, mais encore, tu sais, il y a peut-être un an ou deux, on s'émerveillait devant tout ça, puis de voir comment ça agit, tout ça. Il commence à évoluer, mais je pense que ça va diminuer tout ça, ce genre de, d'engouement-là pour pas grand-chose. Hein. De la course aux followers, ce genre de choses-là, c'est assez futile. Faut pas oublier que c'est un outil de communication, c'est un outil de création aussi. Et moi, c'est toujours ce qui m'emballe avec Twitter, c'est la communication, c'est la création, c'est de créer quelque chose de nouveau, de s'en servir d'une façon différente, de réussir à attirer l'attention, mais pas pour rien, pour passer de l'information ou pour faire quelque chose de nouveau. La nouveauté m'attire, que voulez-vous. Donc, c'est ce que je vois pour Twitter personnellement dans la prochaine année. Seuil de maturité, un peu, ça va rentrer dans le quotidien, tout simplement, et ça va devenir un peu plus banal. Et j'ai hâte de voir aussi comment tous les gens au niveau marketing vont suivre tout ça. Quand ça va devenir un peu moins cool et un peu plus banal. Petite parenthèse, tout simplement pour vous dire que j'espère que je vais avoir la chance de faire plus de podcasts cette année. Et pour une raison bien simple, c'est que j'ai plein d'entrevues d'enregistrées dans ma poche d'en arrière et avec des fois des personnalités assez respectables dans le domaine des technos. Tu sais. Comme par exemple, j'ai eu la chance d'interviewer Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. Et je voulais me dépêcher à le mettre en ligne, mais c'est sûr qu'avec mon travail d'enseignant, puis il est arrivé tout de suite après l'achat de la maison, la prise de possession de la maison, les rénovations, blablabla. Tout ça est arrivé. Et il y a aussi que dans le déménagement, ben j'ai tout rangé mon matériel à un moment donné et je n'avais plus aucune idée où était mon enregistreur H4, où était située l'entrevue. Donc, j'ai interviewé Jimmy Wales. J'ai hâte de vous faire jouer ça, d'ailleurs. J'ai interviewé Jeff Pulver, justement, un des gars très actifs sur les médias sociaux. Un gars qui fait des startups en série, un gars qui finance aussi beaucoup de startups, qui met de l'argent. Bref, c'est un gars assez brillant. Une entrevue absolument interminable avec lui qui a duré, je ne me rappelle plus combien de temps, mais sûrement au-dessus d'une heure. C'est hallucinant. J'avais aussi enregistré l'année passée Didier Zemim. Je n'avais pas eu l'occasion de vous le faire jouer. Ça fait longtemps, d'ailleurs, je n'ai pas entendu parler de Didier Zemim, moins actif sur Twitter aussi, probablement moins actif au niveau de ses captures vidéo sur le web. J'ai aussi interviewé le maître brasseur de la brasserie Molson. Pourquoi? Mais parce que je suis un fan de bière. Pas nécessairement parce que j'aime la bière Molson, mais comme n'importe quel gars, aller dans une shop, voir des grosses machines puis des grosses bébelles, puis dans une shop de bière en plus, c'est le fun. Donc, je vais jouer une autre chanson et je vous reparle tout de suite après, mes chers amis. Down low. Vous avez entendu une autre chanson de Fistful of Mercy. Donc, c'est quand même très bon, comme vous l'avez vu. Je cherchais de l'information sur le web, je me versais de la bière. Bref, c'est le fun d'enregistrer comme ça en temps réel, parce que normalement, j'enregistre ma voix d'un bout à l'autre. Je fais des pauses à peine de 2 secondes. Simplement pour, quand je fais du montage, retrouver l'endroit où est-ce que je dois faire mes raccords. Mais là, enregistrer en temps réel, mais c'est une autre dynamique totalement. Ça permet de prendre une petite pause comme ça. Comme à la vraie radio, finalement. Enregistré d'un bout à l'autre. Donc, vous avez entendu Fistful of Mercy, Father's Son. Et comme vous avez vu, les gars chantent tous, puis jouent tous de la guitare en même temps. C'est assez dynamique. Je pense que c'était le premier extrait ou un des premiers extraits de leur album. Bref, c'était... Ah, c'est bon. Avant de terminer, je voulais vous parler de l'état du podcasting cette année, en 2010, et aussi qu'est-ce que je vois un peu pour la prochaine année, disons, et qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. J'ai vu, selon les chiffres que j'ai vus, il y a une croissance faible aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a 2% de la population en général de plus qui a écouté des podcasts comparé à l'année précédente, donc c'est quand même pas énorme. Il y a une croissance stable en Angleterre, ils disent que des individus actifs, adultes actifs sur le web, il y en a un peu moins de la moitié, 40-quelques pourcents qui ont déjà écouté des podcasts. Et de ça, bien, il y en a la moitié qui en écoutent régulièrement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 18 % de la population totale qui écoute des podcasts. Donc, c'est quand même pas mal. C'est presque au même niveau que les Canadiens anglais. Les Canadiens anglais sont ceux qui écoutent le plus de podcasts. Il faut savoir que les Canadiens sont quand même parmi ceux qui sont le plus actifs sur les réseaux sociaux aussi. C'est pas surprenant, sauf qu'il y a une stagnation. Ça fait 2 années de fil que l'écoute de podcast est à 19 % du côté des Canadiens anglais. En Australie, je sais que l'an passé, ça avait cru quand même de façon stable aussi. Je ne sais pas cette année, en Australie et en France, qui sont les deux autres pays où est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'écoute de podcasting. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive de ce côté-là. Peut-être que des copains français pourraient me fournir les chiffres. Sinon, ici, au Canada français, c'est-à-dire au Québec, il y a eu une diminution. On est passé de 7 % à 5 % de la population globale qui écoute des podcasts de façon régulière. Régulière, c'est au moins une fois par mois. Donc, c'est ça. Ça a diminué un peu. Et il y a plein de choses qui expliquent ça. Entre autres, beaucoup, mais c'est l'offre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de podcasts en français au Québec. Il y en a plusieurs qui sont disparus au cours des dernières années. Il n'y en a pas tant que ça qui ont pris la place ou qui sont connus. Il y en a quelques-uns qui sont apparus durant la dernière année. Certains sont disparus aussi vite qu'ils sont apparus. Malheureusement, ça demande du temps faire du podcasting. Ça demande vraiment de la passion. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je suis pas devin, c'est sûr. Mais en même temps, il y a des shows qui sont stables. Je pense que ça va continuer à avoir une bonne présence. Moi, quand je dis ça, il y a autant de gens qui écoutent de podcasts que de gens actifs sur Twitter. Les gens me regardent avec des gros yeux et croient que je leur compte. Je leur dis des conneries, mais c'est vrai. C'est la réalité. Les chiffres le disent. Donc, Twitter, c'est mainstream. Beaucoup de médias en parlent, mais on ne parle plus du podcasting au quotidien, alors que le podcasting est quand même assez écouté. Donc, voilà pour ça. On va terminer l'année avec une chanson de Johnny Cash. Donc, avant de terminer, je vais vous dire tout simplement, si vous avez des commentaires, envoyez-moi un message. Sylvain Grandmaison à commercial@gmail.com ou allez sur québecbalado.com qui devrait être revampé cette année. Je l'espère. Ça sera l'année du revamp après quoi? Ça fera 5 ans l'été prochain que je fais des podcasts pour vous, que je vous concocte ça. Donc, peut-être que ça serait l'occasion de faire un nouveau site web. Et je vous en reparlerai si ça arrive. De toute façon, la chanson que je vous fais jouer, c'est du Johnny Cash. C'est le tout dernier album des American Recordings. On pensait que le numéro 5, c'était le dernier. Cette année, le réalisateur en a sorti un autre de sa manche, mais on croit vraiment que celui-là sera effectivement le dernier. Ce qui est touchant de cet épisode-là du American Recordings, comme le précédent d'ailleurs, c'est que ça a été enregistré dans les quelques mois entre le décès de June Carter, la femme de Johnny Cash, et le décès de Johnny Cash. Donc, il était très malade, il faisait du Parkinson, entre autres. On sent la fragilité dans sa voix. C'est très, très, très touchant, mais je vous laisse avec ça. Ça sera mon salut de la fin d'année. Donc, mon nom est Sylvain Grandmaison. Je vous dis à très bientôt pour un autre Québec en balado-diffusion. Et je prends une gorgée de carburant de la semaine à votre santé. À très bientôt.
All day I faced a barren waste without the taste of water, cool water. Old Dan and I, with throats burnt dry and souls that cry for water, cool, clear water. Keep a moving, Dan, don't you listen to him, Dan. He's a devil, not a man, and he spreads the burning sand with water. Dan, can you see that big green tree where the water's running free and it's waiting there for me and you? It's water, cool, clear water. The nights are cool and I'm a fool. Each star's a pool of water, cool water. But with the dawn, I wake and yawn and carry on to water, cool, clear water. Keep a moving, Dan, don't you listen to him, Dan. He's a devil, not a man, and he spreads a burning sand with water. Dan, can you see that big green tree where the water's running free and it's waiting there for me and you? It's water, cool, clear water. Cool, clear water. Cool, clear water.